Vous écoutez Secrets d'Histoire, Pedro II, le dernier empereur du Brésil. Troisième partie.
Année après année, Pedro II consolide son empire. Pour autant, l'avenir de la dynastie demeure incertain. L'impératrice lui a bien donné deux garçons, les princes Afonso et Pedro Afonso, mais ils sont morts en bas âge au début de son règne. C'est donc sa fille aînée, la princesse Isabelle, qui est devenue l'héritière du trône.
C'est une femme, alors je dirais malheureusement, elle ne ressemble pas physiquement à son père.
Guy Gauthier, historien.
Elle est ingrate, c'est le moins qu'on puisse dire, au physique. En revanche, c'est une femme qui a hérité de l'intelligence de son père, de la culture de son père et du cœur de sa mère. Elle a quand même un problème par rapport à Pierre, à son père, Dom Pedro, qui est un homme ouvert, c'est un catholique, dans une monarchie catholique où la religion catholique est religion d'État.
On lui reprochait plusieurs choses. On lui reprochait d'abord sa pratique religieuse qui ne correspondait pas à l'esprit de l'époque.
Elle est dans ce cadre-là, catho.
Elle avait un vrai caractère.
Pierre Léglise Costa, historien.
Elle avait ce qu'elle voulait et elle n'était pas du tout, même si elle voulait en donner parfois l'apparence, la femme soumise qu'on voudrait parfois qu'elle soit et seulement bigote et dame au foyer.
La princesse héritière Isabelle a fait un beau mariage. Elle a épousé le prince Gaston d'Orléans, comte II, donc le petit-fils du roi Louis-Philippe Ier. Ils ont eu trois beaux garçons. C'est pas de chance, parce que l'empereur n'avait qu'une fille comme héritière et là, du coup, il y a trois petits-fils magnifiques.
Le problème, en fait, de la succession de l'Empire se pose très vite.
Leonardo Tonus, professeur de littérature.
D'une part, parce que c'est une femme, c'est un pays machiste, et il y a aussi le problème du mari, le comte II, que de plus en plus est perçu, en fait, comme un étranger, comme une menace pour l'identité, la souveraineté au Brésil.
Au-delà des questions de succession, à partir de 1864, un tout autre événement met l'Empire à rude épreuve. La guerre contre le Paraguay. Officiellement, c'est un conflit frontalier dans le sud-ouest du pays, sur le Rio de la Plata, qui sert de détonateur.
On dit aussi que l'empereur s'était particulièrement ému ou avait été particulièrement choqué du fait que, soi-disant, le dictateur paraguayen, López Solano, avait demandé la main de sa fille.
Sébastien Roseau, historien.
Et que cela était un affront à la dignité impériale, en quelque sorte.
Pedro II a décidé de faire cette guerre. Et ça lui est interdit, on veut l'en empêcher.
Michel Faure, historien.
Et il menace d'abdiquer et de devenir un volontaire de la patrie. Bien sûr, on ne laisse pas l'empereur abdiquer et Pierre II se retrouve à la tête de troupes.
C'est le moment où il met en scène une autre facette de sa personnalité, c'est-à-dire le roi guerrier, le roi militaire, le volontaire de la patrie.
Et tout le monde pense que c'est une affaire qui va durer très peu de temps. Et finalement, c'est un effort de guerre considérable. Tout d'un coup, on s'aperçoit que cette guerre va durer longtemps. Parce qu'il y a quelques batailles fluviales qui ne se passent pas très bien, et ça devient une guerre de position. Pierre II se retrouve, il voit qu'on sous une tente, et mène un assaut sur la ville d'Uruguaya, sabre clair.
L'empereur en premier chef a tenu à ce que l'on capture ou que l'on tue ce dictateur, ce caudillo paraguayen. Et donc, c'est cet engagement très fort de l'empereur qui explique la longueur de cette guerre puisque la guerre s'est prolongée jusqu'à ce que l'on aille trouver et assassiner le dictateur et son fils dans des régions extrêmement reculées du Paraguay, là où se trouvaient les derniers lieux de résistance face aux Brésiliens.
Finalement, c'est une guerre qui dure 6 ans, mais c'est une victoire qui laisse d'abord, il faut le dire, le Paraguay dans un état abominable.
Elle a complètement décimé la population masculine paraguayenne qui mettra près d'un siècle à se remettre de cette guerre à outrance.
En remportant la victoire contre le Paraguay, Dom Pedro a consacré l'unification du Brésil par le sang versé. Mais en renforçant l'armée et en ruinant les finances, il a aussi affaibli son propre pouvoir.
En 1853, l'inauguration de ce salon de musique du palais de Pétropolis donne lieu à une fête mémorable. Une exception dans la vie réglée de Pedro II, âgé alors de 28 ans. L'orchestre joue des valses, mais aussi des lundus ou des modinhas, ces musiques brésiliennes influencées par les rythmes africains. L'empereur accorde le plus grand soin à l'éducation musicale de ses filles, les princesses Isabelle et Léopoldine. Après plus de 30 ans de règne, Dom Pedro est fatigué. Il n'a désormais qu'une seule envie, découvrir le monde, en particulier cette Europe qui inspire son action, mais qu'il ne connaît toujours pas. C'est un événement dramatique qui va lui en donner l'occasion.
Le 25 mai 1871, Pedro II, accompagné de l'impératrice, quitte le Brésil pour la première fois. Un voyage provoqué par la mort en Allemagne de Léopoldine, leur seconde fille, mariée à un prince de Saxe-Cobourg et qui laisse quatre fils derrière elle.
L'empereur et l'impératrice ont décidé de faire un voyage en Europe, ne serait-ce que pour voir leur fille et puis gérer l'éducation des princes de Saxe-Cobourg-Gotha, des jeunes garçons qui ont d'ailleurs été confiés à l'empereur et à l'impératrice.
Ce voyage, Pedro II, chef d'État d'une monarchie parlementaire, l'a organisé dans le respect absolu des institutions, en demandant l'autorisation de son Parlement. Et pour gouverner en son absence, il confie la régence à sa fille Isabelle, 25 ans, la princesse héritière.
Il sait pertinemment qu'il vieillit, donc il va être obligé aussi de passer le pouvoir. Il veut, en quelque sorte, former sa fille.
Là, il savait qu'il y aurait une réticence de voir un jour, après lui, une femme au pouvoir. Je pense que ça a été une bonne expérience aussi pour lui de dire « Vous allez voir que ma fille est une femme compétente. »
Déchargé temporairement du pouvoir, Pedro II réalise enfin, avec ce premier grand voyage, le rêve de toute une vie.
Pierre II est un homme qui veut découvrir le monde. Il le connaît sur le plan livresque.
Cette compensation de la solitude par la connaissance et la lecture a besoin, après, de se concrétiser, de savoir comment c'est.
Mais il n'y va pas seulement comme un voyageur curieux ou un touriste avide de découvrir les charmes de l'Europe. Il y va aussi comme une sorte de missionnaire de la cause du Brésil.
Première étape du périple, le Portugal, la terre de ses ancêtres. À Lisbonne, il commence par se rendre au Panthéon des Bragances, à Saint-Vincent-hors-les-Murs, pour se recueillir devant les dépouilles de son grand-père, Jean VI, et de son père, Pedro IV du Portugal, devenu Pedro Ier du Brésil. Mais ce séjour est aussi l'occasion de retrouvailles émouvantes avec Amélie de Leuchtenberg, seconde femme de son père, la dernière personne encore vivante de sa famille au Portugal. 40 ans après qu'Amélie ait quitté le Brésil, c'est la première fois qu'ils se revoient.
Elle a adoré ce petit garçon. Elle lui a servi de mère d'une manière extraordinaire. Avoir quitté un gosse de 5 ans et de retrouver un grand bonhomme, élégant, très grande classe.
Elle est très touchée qu'il vienne. Et il est très heureux. Ils sont très, très émus. Il écrit qu'il est très ému. Ce qui, chez lui, est déjà une forme très expansive.
Une fois hors du Brésil, Pedro II, voyageur, se veut également libéré du décorum. Il se déplace accompagné d'une suite réduite à une douzaine de personnes et sous un anonymat relatif, préférant utiliser son nom de baptême plutôt que son titre.
Il ne veut plus du tout jouer à l'empereur, d'où le fait qu'il vit dans des hôtels.
Dom Pedro utilise le nom de Pierre d'Alcantara dans toutes les circonstances. Il voyage à l'hôtel, en effet, il est déclaré sous ce nom-là, et non pas sous le nom de Pierre II, empereur du Brésil. C'était bien pour montrer que là, il voyageait en citoyen libre, quoi. Voilà.
S'il ne peut pas toujours échapper au protocole, Pedro II se débrouille pour l'accommoder à son propre tempérament. Quitte à paraître parfois désinvolte. Comme par exemple en Angleterre, quand la reine Victoria souhaite lui remettre la plus haute distinction du pays, l'ordre de la jarretière.
Il refuse absolument d'aller au château de Windsor et de revêtir le manteau des chevaliers de la jarretière. Il faut que la reine se déplace au Claridge à l'hôtel pour lui remettre discrètement sa décoration. Ça, pour Victoria, qui aimait le protocole, elle n'a pas tellement accepté.
Voyageur infatigable et avide de découvertes, Pedro II sillonne le monde au cours des trois grands périples qu'il entreprend. Visitant aussi bien les pyramides d'Égypte que les ruines de Pompéi en Italie ou encore les chutes du Niagara en Amérique du Nord. Mais des nombreux pays qu'il traverse, le plus cher à ses yeux est sans doute la France. Une nation dont il admire passionnément les arts et la culture, mais qui est aussi à ses yeux un véritable laboratoire des idées politiques.
Il aime profondément la France, parce que c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays des libertés. Et il se sent français de cœur, clairement. D'ailleurs, il le dira, il a une phrase superbe, quand il dira « Le Brésil est le pays de mon cœur et la France est celui de mon intelligence ». Ça dit tout. Son rêve, il avouera un jour, plutôt que d'être empereur, être professeur de faculté ou enseignant à Paris.
Lorsqu'il arrive à Paris pour la première fois en 1871, Pedro II étonne les passants. Car les Parisiens ont déjà des idées très arrêtées sur le style des Brésiliens. En 1866, le grand Jacques Offenbach a présenté au public sa nouvelle opérette, La vie parisienne, dans laquelle on découvre un Brésilien pour le moins truculent.
C'est l'homme qui arrive à Paris pour vivre de tous les plaisirs. Il a pillé son pays, il a dévalisé tout le monde, il est cousu d'or et il vient tout dépenser à Paris pour ensuite être totalement ruiné et retourner au Brésil, se refaire, comme souvent les escrocs, et ensuite revenir tout dépenser à Paris.
Pour créer ce personnage haut en couleur, Offenbach et ses librettistes ne s'embarrassent pas de nuances. D'autant plus qu'ils n'ont aucune connaissance de l'Amérique latine en général et du Brésil en particulier.
Ils auraient pu prendre un Chinois ou un Lapon, mais c'était moins amusant.
Mais là, on va nous montrer un Brésilien avec un grand sombrero, avec vraiment un aspect complètement ridicule de carnaval de foire.
D'un exotisme assez caricatural, mais très efficace, puisque le personnage est devenu quasiment un archétype dans l'histoire du théâtre.
L'opérette a immédiatement rencontré un immense succès. Et l'air du Brésilien, pourtant personnage secondaire de la pièce, compte encore aujourd'hui parmi les airs les plus populaires composés par Jacques Offenbach.
C'est amusant d'imaginer des Parisiens qui sont allés voir La vie parisienne trois jours avant, qui se promènent sur un trottoir, qui croisent la figure très austère et très hiératique de Pedro du Brésil.
Un grand type blond à la peau blanche, qui est beaucoup plus... Et très grand, il est très grand. C'est un Autrichien, quoi, en fait. C'est l'archiduc autrichien.
Une sobriété d'allure que Pedro II partage avec Thérèse Christine. Mais contrairement à son époux, l'impératrice ne reste pas insensible au charme de cette capitale du luxe qu'est Paris.
Nous avons des livres clients de la période 1871-1872.
Laure Isabelle Mellerio, directrice artistique de la maison Mellerio.
On voit le nom de la cliente, Sa Majesté l'Impératrice du Brésil. L'Impératrice du Brésil est venue très régulièrement. Avec comme descriptif, par exemple, de ses achats, une châtelaine avec montre, perles et diamants, une grande améthyste ovale, une paire de boucles d'oreilles rosaces, perles et diamants. Et voilà, ça continue tout le long. Donc, à la suite de ces visites, ils ont décidé, avec l'empereur du Brésil, d'octroyer le brevet officiel de fournisseur royal à la maison Mellerio. Sous Napoléon III, le style qui domine est l'éclectisme, donc une influence très variée des styles. Par exemple, l'antique. Il y a un très beau dessin d'un bracelet serpent qui se portait en haut du bras, en émail, avec des pierres précieuses. On va aussi avoir une influence de l'Afrique du Nord, des bracelets avec des chaînes. Et bien sûr, le naturalisme, qui est la marque de Mellerio, qui a fait énormément de bijoux sur le thème de la flore, avec notamment des devants de corsage, de sont des grandes broches qui représentaient des branchages. Cette volonté naturaliste nous rapproche finalement presque de planches de botanique.
Pour Pedro II, les voyages sont d'abord l'occasion de faire la connaissance des plus grands esprits de son temps. le naturaliste Charles Darwin en Angleterre, le philosophe Friedrich Nietzsche entre la France et l'Italie dans un train, ou encore le compositeur Richard Wagner qu'il soutient financièrement lors de la création de son théâtre de Bayreuth. Mais c'est surtout de sa rencontre avec le patriarche des lettres françaises, Victor Hugo, que l'empereur du Brésil conserve un souvenir inoubliable.
C'est une rencontre à l'image du roi bourgeois qu'il veut être, en quelque sorte, où il se rend chez Victor Hugo, boulevard de Clichy, en simple redingote, sans aucune formalité, et est invité à dîner par Victor Hugo. Il y a les deux petits-enfants de Victor Hugo qui le saluent en le traitant, « Bonsoir, votre majesté ». Pierre II répond, « La seule majesté ici, c'est lui, en désignant Victor Hugo ».
Pierre, c'est pas un homme qui plaisante. Mais là, avec Victor Hugo, il se lâche. Bon, le repas est bon, ils ont pu un peu de vin. Et Victor Hugo, il dit à l'empereur, « Voyez-vous, sire, moi, je fais une chose que vous ne pourrez jamais faire. Je monte en haut de l'omnibus pour voir, je m'assois là-haut pour voir Paris. C'est une vue magnifique. » Et Dom Pedro qui dit à Victor Hugo, « Mais pourquoi ne le ferais-je pas ? Puisqu'il s'agit d'un omnibus impérial. Bon, et comme je suis empereur, je peux naturellement le faire moi aussi, quoi. »
Et ils ont une conversation, chacun disant son admiration à l'égard de l'autre.
Bon, on sent qu'il y a entre ces deux hommes vraiment une fraternité profonde. Ce sont deux grands humanistes. Ils sont d'accord sur tout, y compris sur l'abolition de la peine de mort. On sent que ce sont presque, j'oserais dire, deux copains, quoi. Ils sont vraiment sur un pied d'égalité.
Grand amateur de littérature, Pedro II ne boude pas les sciences pour autant. C'est ainsi qu'il se lie au cours de ses voyages avec une autre figure éminente, Louis Pasteur. Au-delà de leur rencontre, l'empereur et le savant ont entretenu une correspondance pendant de très nombreuses années. Une relation forte qui s'est nouée à l'occasion d'un événement très officiel.
Pedro II suit avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, les travaux de Pasteur, les découvertes de Pasteur.
Muriel Hillersoul, conservatrice du musée Pasteur.
Et il va en effet décider de lui remettre le grade de commandeur de l'Ordre impérial de la Rose via le ministre du Brésil à Paris. Et quelques temps après, c'est Pedro II directement qui va commencer donc à écrire à Pasteur. Pedro II s'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne la fièvre jaune dans son pays, donc il sollicite, il interroge Pasteur par rapport à ses préoccupations propres pour son pays, avec parfois des messages plus personnels de sympathie sur la situation des uns et des autres, la santé de M. Pasteur par exemple. Voilà comment va se développer cette correspondance épistolaire.
Mais moins que la fièvre jaune, c'est bien sûr la rage qui occupe toute l'attention de Louis Pasteur. Dans sa quête effrénée d'un vaccin contre cette terrible maladie, le chimiste va faire une demande un peu particulière à son ami l'empereur.
Il existe en effet un courrier qui émet l'idée de tester le vaccin contre la rage qu'il vient de mettre au point sur des prisonniers, enfin des condamnés à mort du Brésil. Bon. Donc une idée qui va, c'est sûr, être très surprenante et très gênante pour beaucoup de monde, y compris pour des proches collaborateurs de Pasteur. Pedro II va vite laisser cette idée de côté, c'est le moins qu'on puisse dire.
Une proposition qui n'a pas réussi à altérer l'admiration de Pedro II pour son ami. L'empereur ira même jusqu'à aider au financement de l'Institut Pasteur, donnant naissance à une collaboration scientifique durable entre la France et le Brésil.
Alors Pasteur ne viendra pas au Brésil, mais il n'en demeure pas moins que des chercheurs de l'entourage de Pasteur viendront, avant la fin du règne, créer un Institut Pasteur à Rio de Janeiro. Voilà, un bel échange, si vous voulez, entre gens d'un niveau intellectuel remarquable, quoi.
En 1875, à 50 ans, Pedro II est élu à l'Académie des sciences, l'une des cinq académies qui composent l'Institut de France. Un honneur qui n'a été accordé qu'à un seul autre souverain étranger, le tsar Pierre le Grand, et qui vient récompenser son action en faveur de la géographie.
Je pense qu'il était très heureux, très fier. C'est une reconnaissance de la part de la France, mais elle va au-delà d'une reconnaissance d'un chef d'État. C'est peut-être presque le but de sa vie, être reconnu comme en fait un scientifique.
Intégré à la grande famille des savants, l'empereur Globetrotter dispose désormais d'un accès privilégié aux plus récentes innovations de la science.
Toutes les idées nouvelles, il les ramène. On le voit à Philadelphie, où il aura un contact avec Graham Bell, hein, auquel il va faire une expérience de téléphone, le vibraphone. Il est tellement admiratif. Mon Dieu, mais ça parle, cet engin parle, il est comme un gosse, quoi. La même chose avec Edison pour l'électricité, l'ampoule électrique. Il est fasciné, il veut dire, il faut absolument venir au Brésil pour électrifier les chemins de fer. Et la gare Dom Pedro au Brésil sera la première électrifiée en Amérique latine. Bien sûr, ça l'intéresse, c'est de la science, mais en même temps, c'est pour son peuple. Ça, je crois que les Brésiliens l'ont très, très bien compris.
Autour du palais de Dom Pedro II, les grandes familles se font construire à Petrópolis une multitude de petites villas paladiennes au charme très européen. Au Brésil, la noblesse est plus une dignité qu'une classe sociale, parce qu'elle n'est pas héréditaire, un peu comme notre Légion d'honneur. Mais pour les titres, l'empereur Pedro II aime choisir des noms indiens, ceux qui sonnent pour le moins exotiques. Baron de Mahua, Côté JP, Takaruna, Ouraraï ou Orosui. La Casa Ipiranga date du début des années 1880. Elle a été construite par José Tavares Guerra, l'un des plus grands négociants en café du Brésil impérial. Ce jardin luxuriant a été dessiné par le paysagiste de l'empereur, le français Auguste François-Marie Glasiou. Il est le premier à avoir l'idée de se servir des plantes des Trois Amériques pour créer des jardins sans chercher à reproduire ce qui se faisait en Europe. La Casa Ipiranga, avec son étrange allure asymétrique, fait partie des très rares maisons privées du 19e siècle, encore dans leur état d'origine. Le fondateur de la maison avait fait ses études à Eton, en Angleterre, sous le règne de la reine Victoria. Et il en avait rapporté une passion pour le style victorien, qui est un peu l'équivalent anglais de notre style Napoléon III. Pour autant, ce monde si confortable repose sur des bases bien fragiles. Au XIXe siècle, l'économie dépend presque entièrement de la culture du café. Autant dire de l'esclavage, car il ne peut y avoir de café sans une main-d'œuvre pléthorique. Une situation scandaleuse aux yeux de Dom Pedro II, qui doit encore faire face à son plus grand défi, l'abolition de l'esclavage au Brésil.
Rappelons-nous ce que disait Pierre Ier Dom Pedro Ier, son père. Il disait « Mon sang est le même que celui qui coule dans les veines des esclaves noirs, n'est-ce pas ? C'est clair. Et dans le testament qu'il va rédiger à sa mort, au Portugal, il va dire « Je souhaite au Brésil l'abolition de l'esclavage. » Et Pierre II, d'abord parce qu'il le croit humainement, il est contre l'esclavage, mais il veut respecter la mémoire de son père de ce point de vue-là. Et donc, toute sa vie, il va lutter contre l'esclavage.
À Rio, en 1850, on considère que la ville avait à peu près 250 000 habitants et il y avait un peu plus de 100 000 esclaves. Donc, si l'on ajoute à cela les affranchis et les métis, on est dans une ville noire.
L'homme blanc brésilien ne travaillait pas avec ses mains. Donc, tout était fait par les noirs.
Il y avait un esclavage urbain, un esclavage petit bourgeois, il y avait des commerçants dans les villes qui avaient quelques esclaves, il y avait des petits propriétaires terriens qui avaient quelques esclaves, il y avait même des gens âgés qui s'achetaient un esclave pour que l'esclave travaille dans un commerce et lui assure une vieillesse qui ne soit pas miséreuse.
Il y avait même ce qu'on appelle ici les esclaves de ganho.
Francisco Vieira, historien.
Qu'ils gagnent leur propriétaire qui n'était pas riche, mais était ses femmes-là, pour faire de l'argent en se prostituant.
Donc, c'était difficile, à cette époque-là, de lutter contre l'esclavage.
À la cour, proprement dit, on sait, et ça de façon très nette, que l'empereur ne voulait pas d'esclaves. Ce qui n'est pas du tout le cas des grands propriétaires et de la haute aristocratie. On dirait maintenant le grand lobby anti-abolition de l'esclavage était les grands propriétaires.
Dans un Brésil qui a importé des millions d'esclaves africains depuis le XVIe siècle, la population servile compte près de 700 000 personnes. L'essentiel de cette main-d'œuvre est employé à la campagne, dans les fazendas, les plantations de café. Dans sa propriété de Cachoeira Grande, à quelques heures de Rio, le baron de Vassouras a été l'un des pionniers de cette activité lucrative.
Il faut imaginer que quand il est arrivé, la forêt recouvrait tout.
Nubia Caffarelli, propriétaire de la fazenda y Cachoeira Grande.
Le baron a dû emprunter les pistes déjà tracées par les Indiens. Et il est arrivé à cheval, à la recherche d'un endroit où il y avait de l'eau. C'était la condition nécessaire. De même que la lumière du soleil, qui est indispensable pour faire pousser le café. À cette époque, le travail servile était la norme. Il y avait près de 300 esclaves.
De l'aube au coucher du soleil, les esclaves triment sous l'autorité du feitor, le contremaître. Ils ne peuvent s'interrompre que pour se nourrir.
Depuis l'intérieur de la maison, le baron contrôlait tout leur travail là-haut dans les plantations. Il les surveillait lorsqu'ils plantaient les plants de café et aussi au moment de la récolte. À ce moment-là, les grains étaient lavés dans le réservoir avec l'eau de la cascade. Le grain de bonne qualité coulait et le mauvais flottait. Le terreiro que l'on aperçoit encore aujourd'hui était un large espace empierré où les grains étaient étalés le matin pour les faire sécher. Une fois secs, il fallait encore les torréfier, les moudre dans les moulins et en faire le café torréfié et moulu tel que nous le connaissons encore aujourd'hui.
Grâce à cette main-d'œuvre, le Brésil est le premier exportateur mondial de café. Mais aux yeux de Pedro II, l'esclavage représente une épée de Damoclès. Car à tout moment, cette population très nombreuse risque de se soulever. Aussi l'empereur cherche-t-il une occasion pour agir.
En 1850, sous la pression britannique, le gouvernement brésilien se trouve contraint par les Britanniques de faire cesser la traite négrière. Et l'empereur, en 1850, il est déjà un peu plus âgé, un peu plus mûr dans l'exercice du pouvoir, il va peser de son poids, si j'ose dire, et de son pouvoir modérateur pour imposer, dans les faits, aux élites agraires et esclavagistes, la fin de la traite.
Et donc ces esclaves, puisqu'on ne pouvait plus en importer, devenaient chers puisqu'ils étaient plus rares.
Michel Faure, historien.
Pour la première fois, le consensus social sur l'esclavage a disparu parce que l'esclavage était l'apanage des gens très riches.
Pedro II a remporté une petite victoire. Mais au milieu des collines du Paraíba, dans les riches fazendas, l'interdiction de la traite n'a guère modifié le fastueux train de vie des barons du café, qui demeurent par ailleurs les principaux soutiens du régime. Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeaux. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras et Tim Dombouche. Avec la voix d'Isabelle Benadj.